J'entends des voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
C'est parti certain, nous dit Jean-Sébastien de la Liberté, lui qui est notre homme à tout faire à la console. Monsieur de la Liberté, bonjour.
Bonjour.
Ben non, j'ai pas dit Christiane Campagna, tu pourras pas dire Luc Fortin.
Ben, que dois-je dire alors? Bonjour. Bonjour, ben. Jean-Sébastien.
Bonjour, Christiane.
Christiane, j'entends des voix, mais j'en ai moins entendu cette semaine. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ben oui, parce que j'ai commencé à lire une saga là, de Régine Desforges, là, la bicyclette bleue sur la situation française durant la Deuxième Guerre. Alors, j'ai moins écouté et j'ai essayé de trouver des balados un petit peu politiques américaines avec M. Trump qui se pétait les bretelles hier, là, avec ou Abou Bakr à Bagdadi, ou je sais pas trop quoi, là, je me souviens plus, il y a des... Puis je me disais, mais come on, M. Trump. Il y a quand même une famille, il y a des enfants, il y a du monde qui ont été tués, là. C'est comme, toi, tu l'aimes pas, le monsieur, mais... Fait que je sais pas si je vais rester politique américaine longtemps. Je sais que...
Moi, chaque fois, je dis...
m'encourage, mais...
Je dis régulièrement que ça achève... que l'année passée, j'avais dit, oh, après les élections de mi-mandat, là, je vais sûrement ralentir. Mais il s'ajoute tout le temps, là, un balado, surtout les balados du matin. Je cherche encore le balado canadien équivalent pour avoir mes petites nouvelles rapides le matin.
Je ne l'ai pas trouvé, effectivement.
Parce qu'il y en a sorti un nouveau américain, puisque l'équipe de Crooked Media en a sorti un nouveau. Mais j'ai dit non, là, ça fera. Faut que j'écoute autre chose. Ouais. Et pour rester indirectement dans la politique américaine, il y a un balado que j'écoute depuis déjà longtemps, et là, j'achève.
Parce que t'es tanné ou parce qu'il arrête?
Parce qu'il arrête, parce qu'il s'agit du balado de West Wing Weekly.
Et la série se termine bientôt.
Chaque épisode de balado revenait sur un épisode de la série culte américaine, la série... où on avait le président idéal, ou presque. D'ailleurs, il paraît que les gens réécoutent beaucoup, beaucoup de West Wing depuis que Trump est au pouvoir, parce que c'est comme une doudou, ça rassure. Mais comme c'est un balado qui basé sur la série, quand ils vont avoir fait le dernier épisode, ça sera terminé. C'était vraiment chouette. Si vous avez écouté la série, moi, je vous le conseille fortement. Ils faisaient très attention à ne pas faire de divulgateurs pour les gens qui avaient décidé de suivre les deux en même temps, de ne pas aller dans l'avenir. Ils ont reçu régulièrement les artisans de la série, les auteurs, les réalisateurs, les différents acteurs. Un acteur qui explique que dans la dernière saison, quand on a fait faire telle chose à son personnage, il était totalement en désaccord. Et aussi, parfois, à des experts pour comparer ce qu'il y avait dans la série et la réalité de la politique américaine. Alors, c'était vraiment passionnant. The West Wing Weekly.
C'était le fun si on avait fait ça avec Unité 9 ou si on faisait ça avec District.
Et il y en a plusieurs, des balados de série comme ça, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'un des co-animateurs était un des anciens acteurs de la série.
OK. Il y a Vanessa Destiny qui est devant moi, qui est à ta gauche, que l'on a invité. On discutera de son projet un peu plus tard, mais Vanessa, es-tu une West Winger?
J'ai étudié en sciences politiques. Okay. Bonjour à tous les auditeurs. J'ai étudié en sciences politiques au cégep et à l'université avant de réorienter mon parcours. Fait que oui, je m'intéresse quand même à la politique. Puis en plus, ma concentration, c'était relations internationales. Donc oui, évidemment, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière avec M. Trump, qui jamais je n'aurais cru aurait pu accéder au pouvoir. Et là, il est à la veille de compléter, s'il n'y a pas de mesure d'impeachment, de destitution, son premier mandat, et j'ai même peur qu'il se présente.
Ah oh non, ça c'est sûr qu'il va se présenter.
Ben oui, et qu'il soit réélu, mais qu'il y ait des bonnes chances, en fait.
Les présidents sortants partent gagnants.
Ben c'est ça, moi ça me fait capoter, donc oui, je suis vraiment...
Es-tu abonné à ce genre de contenu? Est-ce qu'en général, t'écoutes du balado ou tu fais juste en produire?
Je fais juste en produire, j'en écoute quelques-uns, mais vraiment dans mon range à moi, c'est-à-dire en lien vraiment avec mon sujet de podcast qui est sur la diversité culturelle, le féminisme, etc. Par contre, en ce qui a trait à la politique, je me réfère aux médias traditionnels, tout simplement, puis il y en a déjà en masse de ce côté-là en matière de journaux. T'sais, on est tellement avec Trump, en plus, on est tellement dans l'actualité. On n'a même pas le temps de réagir, de produire un podcast pour réagir à sa dernière déclaration. Il est déjà rendu ailleurs. Il tweet tous les jours. Puis parfois, tu sais, c'est comme... ça vient en avalanche, là. Fait qu'il faut vraiment être collé sur l'actualité, je pense, pour suivre les déboires de la Maison-Blanche.
Alors, c'est quoi ces balados que tu écoutes, qui sont des balados féministes ou en lien avec...
Ben en fait, moi, mon balado, mon projet personnel à moi, c'est Pigment Fort. Et Pigment Fort, c'est quelque chose qui germait dans ma tête depuis plusieurs années. Et je dois dire que j'ai commencé à capoter quand j'ai vu que des gens étaient plus rapides que moi de l'autre côté, justement, de la frontière, de l'autre côté de l'Atlantique, en proposant des podcasts qui sont sensiblement sur le même terrain, celui de la diversité culturelle. Il y en a un, entre autres, qui est Kif Taras de Rokaya Diallo et de Grace Lee, deux journalistes françaises qui proposent, en fait, d'aborder le thème de la race, en fait, là, qui est très chargé, évidemment, parce qu'on ne dit plus qu'il y a des races, mais en France, ça existe encore, ce discours-là, et c'est très chargé. Donc, elles essaient de lever les tabous, et je dirais que dans les discussions, en France, on est vraiment moins... On n'est pas rendu aussi loin qu'au Québec en matière d'ouverture, de discussion. En France, notamment, il n'y a pas... Le recensement ne prend pas en compte la diversité culturelle. Il ne faut pas parler de ce mot-là. On essaye d'uniformiser. Tout le monde est citoyen français. Il y a des politiques d'assimilation, en fait, qui font en sorte qu'on gomme le problème. C'est comme si, vu qu'on ne le nomme pas, il n'existe pas. Puis non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, elles abordent là, leur réalité du point de vue français. Qu'est-ce que c'est d'être des femmes afro-descendantes et d'origine asiatique dans le contexte français? Elles parlent d'appropriation culturelle, de fétichisation raciale, donc toutes sortes de tabous là, que je vous dirais là, reliés vraiment.
Est-ce que ça ressemble beaucoup à Pigment Fort dans la structure?
Dans la structure, non.
La facture,
au
non,
niveau des thèmes, oui, parce que sensiblement, on vit les mêmes affaires. Ouais. Par contre, au niveau, je vous dirais, du récit, c'est très franchouillard. Hein? Okay. Donc, c'est beaucoup c'est plus chargé, c'est plus académique, t'sais, c'est plus le ton... on est moins dans la rigolade, là. On se prend très, très, très au sérieux. Les sujets sont traités comme des thèses universitaires, tu sais. Okay. Alors que nous, du côté de Pigment Fort, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder ça quand même vivant, de garder ça dynamique, enjoué, pour pas que ça soit lourd, justement, parce qu'on sait aussi que, même si on n'est pas en France, au Québec aussi, parler de diversité, c'est quand même explosif. Les risques de dérapage sont quand même assez évidents. Et on veut pas... ce qu'on essaie de faire, Dalila et moi, là, bien modestement... Là,
Dalila Awada.
Oui, qui est ma co-animatrice dans ce projet, c'est de créer des ponts. Donc, on essaie vraiment d'éviter d'avoir un ton moralisateur, culpabilisateur ou tout ce qui pourrait rebuter un public cible qui ne serait pas nécessairement attiré par nos personnes.
Ouais, ben on y reviendra d'ailleurs sur le projet de Pigment Fort, qui est un hebdomadaire. Christiane, toi, dans cet élan-là de diversité, je sais que bon, NPR en font quelques-uns. Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu es resté abonné? Est-ce que c'est un sujet... disons, qui a attiré ton attention ou qui continue à attirer ton attention?
J'écoute pas de balados qui sont 100% dédiés à ce sujet-là. Par contre, avec les questions d'intersectionnalité, moi, j'écoute des balados féministes où ils abordent ces questions-là. Donc, autant que ce soit dans le balado Unladylike ou dans le balado Stuff... Mom Never Told You.
Il y en a des affaires que ma mère ne m'a pas dit.
C'est un genre de sujet qui revient de manière récurrente.
Ben, c'est ça, effectivement. Puis la question de l'intersectionnalité, là, qui est le fait qu'on vit des oppressions croisées. Donc, une personne peut être victime de racisme, d'homophobie, de sexisme en fonction de ses identités qu'elle cumule. C'est sûr que ça revient dans tous les balados que j'écoute, effectivement, parce que c'est inévitable. C'est sûr qu'on a des identités croisées à un moment ou à un autre. Moi, je suis une femme noire, par exemple, et je vous dirais que je suis plus souvent victime de racisme que de sexisme, mais les deux sont là quand même, tu sais. Voilà pour ça. Puis au niveau d'autres balados que j'écoute, Kif Taras, Le Chip aussi, qui est un autre produit français, c'est trois afro-descendants qui discutent de l'afro-pop, donc de leur culture, de manière... c'est pas chargé politiquement, c'est vraiment plus, je vous dirais, c'est quoi être noir en 2019, leur coup de cœur, les habitudes, leurs expériences à la maison, dans la famille, tu sais, c'est vraiment... on est moins dans le... l'aspect sociologie de la chose, de la diversité. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, il y a un que je viens récemment de découvrir, dont mes boss m'ont parlé, qui est No Country for Young Women. Ah, j'adore oui. le titre qui okay. fait référence là, à ce film des frères Coen, No Country for Old Men. Donc, elles l'ont bien, encore une fois, une femme d'origine qui est musulmane, une femme noire qui, ensemble, co-anime, qui discute. Ça, c'est sur la BBC. Elle discute des thématiques liées à la race et au féminisme. Et même chose du côté de Yo, is this racist? Qui est une balado américaine autant un peu plus edgy, je vous dirais, pour aborder ces enjeux-là. Donc, on parle de sexe, notamment, tu sais, sexe et race, donc des choses comme ça. Ouais.
Puis de concentrer dans ce domaine-là avec autant d'attention, à un moment donné, ça fait pas... Moi, il me semble que j'aurais besoin de diversifier. Et même, j'écrivais à Christiane la semaine passée, parce que, bon, Christiane et moi travaillons sur une heure traitant de situations de handicap à chaque semaine. Puis je disais, là, il va falloir trouver une façon, parce qu'il me semble qu'on dit à peu près les mêmes affaires, c'est juste qu'on change les villes, on change les noms, on change les situations de vie, mais est-ce que tu commences à sentir que, bon, je sais que Pim en face, c'est quand même nouveau, là, vous avez quoi, 4 épisodes?
On est rendu à notre 6e qui va sortir cette semaine,
OK, ouais. mais en écoutant à gauche et à droite, est-ce que tu sens qu'à un moment donné... on risque d'avoir fait le tour, même si la situation ne se règle pas aussi vite qu'on le souhaiterait?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'on le voit à chaque controverse, en fait, un blackface ici, un costume d'appropriation par là. Il y a des controverses constamment au Québec liées au terme de l'identité. Et on a des Slaves, on a des Kanatas, on a des choses comme ça qui se passent à chaque année, à chaque mois à peu près. Il y a une nouvelle controverse liée à la diversité. Et souvent, on ne sait pas comment en parler. On ne sait pas comment l'aborder. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est nouveau, ces discussions-là. C'est des questions qu'on ne se posait pas avant. Où est-ce qu'on pensait qu'on vivait dans une société super égalitaire? T'sais, pendant tellement longtemps au Québec, les enjeux étaient liés à la politique, au nationalisme versus le fédéralisme, qu'on a négligé peut-être d'autres enjeux liés à la diversité, donc des enjeux qui ne sont pas la diversité politique, mais bien la diversité ethnoculturelle,
Mais il y a aussi que les gens étaient moins nombreux. Moi, j'ai grandi à Saint-Léonard.
Ah, OK.
Et il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant des communautés arabophones qui n'étaient pas là, mais pas du tout quand j'étais là. Donc, c'est sûr que c'était pas une préoccupation et c'était pas... On parlait du oui ou du non en 80. Là, on parlait pas d'une mosquée puis du Centre Leonardo de Da Vinci, ouais. qui est maintenant... Bon, avant, c'était l'aréna Hébert, puis c'était l'aréna... Bon, ça a changé.
Ça a Alors, changé, effectivement.
C'est sûr qu'on change avec la... Disons, ouais. la mutation, et c'est bien que vous arriviez avec ce projet-là. Christiane, tu nous suggères un extrait.
Oui, parce que, en fait, moi, ce qui m'a frappé en écoutant l'émission, c'est ce mélange de la fois des grands bouts basés sur. Vous interviewez des experts,
oui.
Il y a les faits, et ça se mélange à vos vécus personnels.
Bien sûr.
Et puis là, c'est un petit extrait en lien avec ça qu'on va écouter avant de poursuivre.
La belle surprise. Et à chaque fois qu'il prenait le volant, il se mettait beau sur son 31. Pas de t-shirt, de jeans ou de running shoe, des pantalons propres repassés avec la chemise rentrée dedans, des petits souliers vernis, puis un veston. Tu sais, puis mon père a toujours eu des idées de grandeur. C'est un fashionisto, j'imagine, la version masculine de fashionista. Malgré sa vie de misère, OK? Il s'est toujours habillé comme un monsieur qui va luncher à la chambre de commerce métropolitain, même s'il travaillait dans une manufacture à l'autre bout de la ville. Fait que le fait qu'il en rajoute une couche avant de prendre le volant de sa Mercedes, ben moi, je croyais vraiment à un excès de coquetterie de sa part. Ça a pris du temps pour que je comprenne qu'il s'habillait d'une manière qui flashait, dans le fond, dans le but de se faire remarquer le moins possible. C'est ça qui est ironique. Ça a pris du temps pour que je comprenne qu'il s'habillait comme ça pour éviter d'attirer l'attention de la police.
Parce que c'était dans le cadre d'un balado dont le thème était le rapport qui est sorti dernièrement sur le fait qu'au SPVM, on a remarqué que les personnes des communautés étaient davantage interpellées, par exemple.
Voilà.
Et moi, c'est un mélange que j'apprécie vraiment. J'ai toujours soif de connaissances. Donc, parce qu'on vit beaucoup dans un univers d'opinion. Et là, j'aime cet heureux mélange de vous êtes vraiment rigoureuse sur démontrer les faits, les études. Mais avec ces anecdotes-là, que si on n'est pas dans cette situation-là, qui sont souvent des réalités qu'on ne soupçonne même pas.
Ouais. Mais pour nous, c'est important. Puis là, on le sent dans ma voix, tu sais, je bute sur des mots parce que c'est tellement émotif.
C'est près de toi, ouais.
Oui, puis on le garde comme ça parce qu'on veut transmettre l'émotion. Ouais. C'est correct que ça soit pas parfait. Oui. C'est important pour nous d'humaniser les enjeux parce que oui, c'est bien beau de parler des statistiques, de dire que les Noirs sont interpellés 4 fois plus que leur père blanc, par exemple. Mais si on met pas un visage sur ce chiffre-là, c'est pas facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde à quel point ça peut arriver à n'importe qui. Et que moi j'ai deux frères, là, deux demi-frères qui, une fois, plus qu'une fois dans leur vie, vont être interpellés régulièrement par la police, tu sais. Puis comment t'expliques ça à quelqu'un qui n'a jamais eu à être inquiété de cette situation-là? Donc nous, ce qu'on essaie aussi avec ce podcast-là, c'est de générer de l'empathie, c'est de générer une meilleure compréhension de l'autre, du vécu, pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Puis là, c'est très, très ambitieux, là. Je veux dire, on réglera pas tous les maux de la terre, Dalila et moi, à ce show-là, mais si au moins on peut permettre à des gens, là, je pense entre autres au public régulier de Cube Radio, qui est souvent plus âgé, qui habite en région notamment, puis qui est tanné de se faire traiter de raciste tout le temps. Voyons donc, là, c'est quoi le problème, là? On peut plus rien dire. Mais si on leur permet de voir notre réalité, de l'expliquer sans lancer d'accusation, juste de dire, regardez, c'est ça qui se passe dans nos vies quotidiennes, ça nous fait mal. On souffre à travers... On se plaint pas pour se plaindre. On se plaint parce que c'est aberrant, cette déshumanisation-là qui arrive constamment. Et si vous aviez à le vivre, vous ne l'accepteriez pas non plus, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une façon d'humaniser les enjeux, là, pour parler.
Je t'écoute, puis j'essaie de penser, parce que, bon, moi, j'anime, tu sais, du handicap depuis 10 ans à gauche et à droite. Mm-hmm. Puis j'essaie de me dire, est-ce que les gens qui ne sont pas handicapés ont l'impression ou le sentiment que j'ai quand moi j'écoute, supposons, Pigment Fort ou... parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu mal d'être un gars blanc, francophone. En même temps, ce que je trouve qui manque parfois dans les médias, c'est la solution. Exemple, il y a sûrement une raison pourquoi la personne de race noire, supposons, est interpellée 4 fois. Que ce soit parce que la formation est tout croche, que ce soit parce que les professeurs eux-mêmes étaient biaisés Puis je trouve que souvent, on parle des problèmes sans essayer d'aller à la racine et ensuite de dire, OK, on fait quoi? Plutôt que juste dénoncer.
Mais exactement, puis c'est un très grand problème, puis je pense que c'est pour ça qu'on avait besoin d'un peu de rigueur, Dalila et moi, dans notre projet, qu'on pouvait pas juste parler de nos émotions puis de notre vécu, nos expériences, parce qu'au Québec, en général, on surfe beaucoup sur des controverses, c'est-à-dire qu'on réagit là, à chaud, là, tout le monde déchire sa chemise. Je prends le cas de Slav, entre autres, qui pour moi est le meilleur exemple là, d'une espèce de catastrophe, d'une psychose collective là, qui mène à l'annulation d'un spectacle. Puis là, tout le monde se lance des accusations par médias interposés, par déclarations, clips de quoi? 10-15 secondes à la télévision, tu sais, on va jamais dans le nœud du problème. C'est combien de mois plus tard que finalement Robert Lepage s'est assis avec les manifestants du spectacle Slav, qu'il a discuté avec eux, et au lendemain de cette rencontre, il a publié un statut sur Facebook, en fait un communiqué plutôt, dans lequel il explique « Aïe aïe, je me rendais pas compte, je pensais pas que ça serait aussi fluide que ça, la conversation. Ils ont soulevé des points, j'ai soulevé des points, on m'avait présenté ces personnes-là dans les médias comme des gens enragés, en colère, fâchés. » Finalement, je me suis retrouvée face à des jeunes très articulés qui étaient dans l'écoute, qui ressentaient le besoin d'exprimer ce qu'ils vivaient, mais qui étaient très loin de l'image qu'on avait dépeint dans les médias. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on va avoir, une controverse, on va avoir des parties prenantes, donc des intervenants qui vont s'attaquer là, par médias interposés. Là, tout d'un coup, on va avoir un politicien qui s'en mêle, pas rapport, qui va aller chercher un petit capital politique sur la dernière controverse. Il y a de l'enflure. On reste en surface
puis
aussi.
Il y a plus
des enjeux
à la nuance quand ça arrive.
Exact.
Qu'à un moment donné, c'est « donc t'es contre Robert Lepage ».
Oui, c'est ça. T'sais, puis on se rend pas compte, sur les réseaux sociaux, par exemple, là, qui vraiment aussi là, qui contribue évidemment à faire monter, mousser ces controverses, c'est qu'on se rend pas compte que souvent les gens dans leur clavier, ils ont l'air bien, bien fâchés, mais une conversation face à face avec ces personnes-là, c'est toujours plus nuancé. Moi, je dis toujours, on est plus nuancé qu'on l'est sur les réseaux sociaux, par exemple, entre humains. Donc, c'est ça
même
qui
les nuances
beaucoup
se perdent. Exemple, si quelqu'un avait, ça a sûrement été dit, là, mais si quelqu'un, mettons, nous dit, c'est vrai que c'était peut-être un peu hâtif de manifester avant la première alors que personne n'avait vu la pièce, supposons, mais peut-être que ça a été dit, mais on ne l'a pas entendu, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont juste dit, ah, c'est juste des chialeux.
Oui. En fait, moi, je reviens sur Slav parce que j'ai écrit un texte là-dessus. Je suis une des rares personnes qui a vu la pièce. J'étais là le soir de la première. En fait, je suis allée couvrir l'événement, couvrir les manifestations parce que ça grondait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur les réseaux sociaux, dans des groupes fermés. C'est ça. Où est-ce qu'il y avait des jeunes issus des communautés...
Qui se préoccupent de ces enjeux-là.
Oui, exactement. Puis que les médias traditionnels, malheureusement, n'ont pas vu passer parce que, bon, ils sont en vase clos, puis... veut pas, ils sont dans un certain milieu qui est peut-être déconnecté, en fait, de la réalité d'un jeune qui vit à Montréal-Nord, tu sais. Donc, moi, je savais qu'il allait avoir une manifestation, ça m'a pas pris par surprise. Les médias l'ont pas vu venir. Moi, je suis arrivée, j'ai couvert, et j'ai vu le spectacle et tout, puis j'ai écrit un texte qui était d'ailleurs très, très nuancé, mais qui était un texte de 2000 mots aussi, il faut dire, sur la situation. Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on manque de temps. Je trouve que quand les médias rapportent des histoires, ces controverses-là, on manque de temps, on manque d'espace, on essaie de tout raconter dans un topo de 3 minutes ou encore dans un texte qui fait maximum 500 mots, ça laisse pas la place à la nuance quand on est limité comme ça dans le temps ou dans l'espace pour bien expliquer les enjeux. Donc, c'est sûr qu'on sort pas en dehors des grandes lignes, puis moi, c'est ça, des grandes lignes de la controverse. Hein.
Alors, si on revient à J'entends des voix
oui.
un peu, donc, pour toi, est-ce que le médium du balado, justement, donne ce prendre le temps de faire ça?
Absolument, absolument. Dalila et moi, quand on se concentre... Tu sais, moi, je fais de la radio quotidienne aussi. J'en faisais notamment à la barre des effrontés, là, qui est une émission, qui était une émission quotidienne à Cube Radio qui existe encore. La différence, c'est que quand tu traites un sujet à la radio traditionnelle, c'est 7-8 minutes d'entrevue. 15 minutes, c'était vraiment généreux là, avec un invité. Dalila et moi, on reçoit quelqu'un puis on parle avec elle pendant... 30 minutes à peu près, là, tu sais. Ça fait toute la différence. C'est ça qui permet d'expliquer les enjeux. Puis les gens, ils voient ça aller, ils sont comme, oh mon Dieu, mais il doit avoir des longueurs. Ben non, il n'y en a pas, parce que justement, si on prend la peine d'expliquer tous les arguments, tu sais, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend à chaque détour, en fait, de la conversation. Puis c'est pour ça qu'on essaye de mélanger entre les expériences puis la vie d'un expert, parce qu'on a un invité par émission pour nous aider à approfondir notre réflexion sur le thème qu'on lance comme ça. Quelqu'un qui a une expertise que Dalila et moi, on n'a pas, puis qui va bonifier, en fait, ce qu'on tire de notre réflexion sur le sujet. Donc oui, c'est important de prendre le temps de mettre la table, et je constate que à date, le balado, c'est vraiment, je trouve, que c'est le meilleur outil. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la radio pour l'aspect intime, déjà, qu'on différencie de celui de la télévision. T'sais, on est beaucoup plus dans la confidence, comme on est en ce moment, tous les trois. Mais la balado, en plus, te permet vraiment d'accompagner la personne. Puis, tu sais, vu qu'à la radio, on crée déjà des habitudes là, avec les personnalités, ben je trouve que ça s'accentue encore plus, là, qu'on peut passer comme ça un 30 ou un 40 minutes avec un invité sans interruption, sans publicité aussi, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de rupture de ton. On n'est pas obligé. Je pense aussi que les gens font le choix de nous écouter, tu sais, dans les balados. Ceux qui veulent vraiment nous écouter vont nous écouter jusqu'au bout, tu sais.
Me demandais justement à ce sujet-là, si dans les feedbacks que vous avez eus, si vous sentez que il y a des gens qui vous écoutent qui sont en train de découvrir de nouvelles choses, ou on se pose parfois la question aussi ici pour les émissions sur le handicap, ou si on parle seulement entre initiants, entre convertis.
C'est un mélange des deux. Je vous dirais là, que sur la page Facebook en ce moment de Pigment Fort, il y a beaucoup de gens qui ont liké la page qui sont mes amis. C'est sûr. J'en ai beaucoup quand même. J'ai un bon réseau au moins, tu sais. Fait qu'on est à peu près à quoi? 400 likes sur la page Facebook. Moi, j'espère qu'il va y avoir un bouche à oreille, parce que c'est sûr que on s'est donné pour mission, Dalila et moi, de faire attention aux mots en zation, tu sais, les sions, là, les mots, les grands termes universitaires qui finissent plus de finir, justement pour demeurer accessible, pour permettre à des gens moins au fait de ces situations-là, pardon, ou des gens qui n'ont pas fréquenté les campus universitaires, qui n'ont pas étudié en études féministes là, à l'Institut Simone de Beauvoir de Concordia, par exemple, de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec nos sujets. Mais l'enjeu, c'est de ne pas aussi perdre les initiés, parce que, tu sais, des fois, on veut aller... un petit peu plus loin. Comme on a 30 minutes, on va un peu plus loin aussi dans les sujets. Fait qu'on, tu sais, on commence toujours. Puis je pense que l'anecdote personnelle, à ce niveau-là, aide à placer généralement l'enjeu. Donc, on met tranquillement la base. Puis là, tranquillement, on monte avec l'invité. Donc, on pose les arguments. Fait que tout le monde y trouve son compte. Mais l'équilibre est effectivement difficile.
Oui, puis tu parlais de placer. J'ai envie d'inviter les gens à écouter plus d'un épisode parce qu'on remarque des petites variantes. Exemple, j'avoue que le premier épisode avec les humoristes ne m'a pas touché à peu près pas parce que je trouvais que c'était bon... Tu sais, Radio-Canada avait fait mener un balado avec, il me semble que c'était un humoriste français qui gérait tout ça. Puis je me disais, bon, encore des humoristes. Mais là, dès le deuxième épisode, tout à coup, je me souviens plus si c'est celui-là, le 12 septembre 2001.
Oui, oui.
Mais là, déjà, on commence avec une anecdote, on commence avec de l'émotion, ensuite, on arrive avec des données. Et déjà, c'était différent. Mm. Donc, d'une fois à l'autre, il y a quand même, il n'y a pas de rupture de ton, mais il y a chaque épisode a sa couleur.
Oui, exactement.
Et parlant de couleur, toi, ce que tu nous dis, c'est que tu es à la pige. Pour ceux et celles qui veulent faire des balados, est-ce qu'il faut payer nos invités? Est-ce qu'il faut payer... Comment ça fonctionne, faire un balado, puis ensuite le présenter à un diffuseur?
Bien, en fait, c'est que moi, j'étais à la pige, mais avant, je travaillais pour Québécois. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler pour Québécois chez Tabloïd, qui est une marque là, qui est un peu le RAD puis le Urbania de Québécois, en fait, qui s'adresse à un public là, de 18-35 ans pour vulgariser les nouvelles, donc les grands titres de l'actualité, mais de façon à ce que ça soit accessible pour un public qui a tendance à bouder les médias traditionnels. Après ça, on m'a approché pour la radio quand ils ont lancé Cube pour un projet d'émission quotidienne que j'ai animé pendant un temps avec Geneviève Petersen, qui est autrice. Et par la suite, ben, voyant le développement de Cube Radio, notamment comment ils produisaient en masse des podcasts, là, c'est très, très rapide. Là. Je pense qu'en ce moment, au Québec, il n'y a pas de joueur qui produit aussi rapidement une palette aussi diversifiée de podcasts. Parce que, bon, moi, le mien est sur la diversité, mais il y a des podcasts sur le sport, d'autres sur les automobiles. Je pense que vous en parlez régulièrement là, quand même. Vous avez reçu certains de mes collègues. J'avais un projet, comme je vous disais, qui me trottait dans la tête depuis longtemps. À l'époque même où je travaillais pour un autre média, en fait, ce projet-là de Pigment Fort. La forme actuelle, c'est pas nécessairement la forme à laquelle j'avais pensé au début, mais c'était un projet où est-ce que je voulais vraiment avoir des discussions sur la diversité, donc je l'ai pitché. C'est sûr que moi, c'était facilité parce que c'était déjà mon employeur, Cube Radio.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai pu le pitcher comme ça. Puis quand j'ai pitché, d'ailleurs, le projet de Cube Radio, de Pigment Fort, j'étais encore employée permanente.
Okay, okay.
C'est par la suite que j'ai décidé de devenir pigiste parce que je voulais déposer mon stylo, mon crayon un peu. Je voulais plus me concentrer sur la radio que sur l'écrit. Et mon contrat, moi, était à l'écrit à la base. Donc, c'est ça. Alors, j'ai décidé de devenir pigiste.
Faites-vous votre technique ou c'est Cube qui s'occupe de la technique,
en fait,
la recherche?
La recherche, c'est moi et Dalila, l'animation moi et Dalila. Je fais un découpage de chaque émission, donc en gardant des extraits... En présentant les extraits que je veux garder ou que je veux retirer. C'est pas moi qui fais le montage final audio avec le logiciel de montage, mais c'est moi qui fais le découpage. Donc, c'est moi qui fais l'éditorial, dans le fond.
OK. Donc, disons, Bastien Gagnon La France, aucun... Il n'y a rien à dire sur le contenu.
Des fois, oui.
Oui,
okay. Des fois, il se permet des commentaires, absolument. Puis il faut, hein, tu sais, je peux pas m'avancer comme ça dans un projet.
Mais est-ce que ça peut être des commentaires du genre ça, non, je pense pas, ou c'est plus, vous pourriez peut-être faire ça comme ça, c'est des suggestions?
C'est des suggestions, okay. Même de l'éditorial aussi, quand même, parce que vous avez parlé tantôt, Luc, de l'épisode sur les humoristes, puis celui du 12 septembre.
Ouais.
En fait, vous avez inversé, le 12 septembre, c'est notre premier épisode, et celui des humoristes, c'est le deuxième, mais quand nous, on l'a enregistré, ça, les gens ne le savent pas, celui des humoristes était censé être celui qui allait lancer le projet Pigment Fort. Et mes boss l'ont écouté, puis ont fait « Tu sais-tu quoi? On trouve ça peut-être un petit peu trop léger.
Okay. »
Comme premier show, on trouve que ça manque d'impact, parce que nous, on avait pris le sujet des humoristes parce que c'est fédérateur, l'humour. Hein?
Ouais.
On s'était dit « Bon, la diversité, ça va faire peur au monde. On va y aller dans liberté d'expression
on
avec des humoristes. »
On invite vraiment les gens à,
ben oui.
À aller du côté de Pigment Fort.
Vanessa Destinée, co-animatrice, co-réalisatrice, co-recherchiste, tout ça finalement, du balado Pigment Fort. Merci beaucoup d'être passé.
Merci, j'entends
des voix.
Tellement vite, c'est
merci
le fun.
Merci Jean-Sébastien. Salut tout le monde.